La conscience perd. L'amour intelligent donne son énergie intelligente et son élan au monde des formes complexes sous forme d'électricité. Le but mère, l'intelligence aimante, donne son but et sa pulsion de survie aux formes complexes individualisées sous forme de magnétisme, attirance et rejet. Voilà les impulsions universelles premières de toute vie tirées de la conscience universelle, source de votre être, intelligence et amour. La conscience-connaissance en équilibre est l'état d'être avant la création. Entrez à présent dans un état intérieur d'équilibre conscient. Apaisez vos pensées, rendez votre esprit silencieux. Vous avez le contrôle intérieur. Votre esprit et vos émotions ne sont plus divisés entre activité et sentiment. Vous ressentez peut-être alors une puissance accrue, force, paix et contentement. Cela, exprimé en vous, dans la forme individuelle, est l'état d'être d'où est issue la création. Remarquez bien ceci. L'équilibre est impossible si la pensée surgit. Comprenez que la dimension universelle est une dimension d'impulsion non formée, sans aucun projet de création. Elle est dans un état de forme indivise. L'équilibre, ou contrainte, entre impulsions opposées, bouger et rester attaché, crée une spirale infinie d'énergie autonome. Cette énergie autonome, née de la contrainte mutuelle, est tout simplement hors de la portée d'un esprit humain. Je vous ai dit que si l'individualité entrait dans la dimension universelle des impulsions mutuellement contraintes du mouvement et attachement, elle serait aussitôt dissoute et rendue à l'équilibre de la conscience universelle. Mesurez l'incommensurable puissance tenue dans la contrainte mutuelle des impulsions jumelles au sein de la conscience universelle. Sont ainsi tenues en contrainte mutuelle conscience et connaissance, volonté et but, intelligence et amour, combinés en amour intelligent et intelligence aimante, mouvement et attachement-rejet, électricité et magnétisme en équilibre. Tout cela représente la dimension universelle illimitée avant le Big Bang. Vous savez à présent que le processus créateur père-mère et les outils de création physique sont tous en état d'équilibre dans la dimension universelle. Mais cet équilibre va devoir exploser pour provoquer la forme individuelle. Vous savez aussi que les impulsions éternelles infinies, maintenues dans un état de contrainte mutuelle, contiennent une intensité d'énergie dépassant l'imagination. Au vu de cette forme et à titre de comparaison, l'énergie atomique contenue dans la division de l'un de vos atomes est un léger soupir, un spasme infinitésimal. Prenez bien conscience de tout ce qui précède, car ce qui s'est produit au moment du Big Bang vous donne un aperçu de ce qui s'est produit lors de la scission de la conscience universelle, la naissance de la forme individuelle. La conscience universelle s'est divisée. Volonté et but, intelligence père et amour nourricier mère ont éclaté pour travailler indépendamment et conjointement avec leurs instruments respectifs, électricité et magnétisme. L'équilibre explose, naît la grande intention d'expression de soi. La conscience universelle d'être devient une impulsion de conscience du « je » individualisé. Elle exige l'expression de soi. La vie et le « je » sont équivalents dans la dimension de la matière, dont ils sont la conscience. Cette conscience de vie, c'est l'intelligence père et l'amour mère, mouvement et but, nourriture, survie, qui apparaissent sous forme d'électricité et de magnétisme dans la matière. Tentez seulement d'imaginer l'explosion de la conscience, de la connaissance. Pour vous aider à visualiser en partie ce qui est arrivé au moment du Big Bang, remémorez-vous un moment où, vous aussi, avez éprouvé comme une explosion au sein de votre conscience. Songez à un moment où vous vous êtes voué tout entier à la réalisation d'un but très important. Vous voilà prêt à agir, fébrile et enthousiaste. Or, une circonstance banale ou une personne insensible vous empêche d'atteindre ce but tant attendu. Que ressentez-vous ? Votre concentration est divisée et vous explosez. J'invite à nouveau ma porte-parole à trouver en termes humains quelques exemples de ce que je veux dire. En effet, la plus petite conscience terrestre est issue de la conscience universelle. Elle est donc à son image. Vous êtes à l'aéroport, heureux, prêt à décoller pour un voyage impromptu outre-mer. Au bureau d'enregistrement du vol, vous apprenez qu'aucun document, billet, réservation de vol ou d'hôtel n'existe à votre nom, bien que vous ayez au préalable payé par carte bancaire. Que ressentez-vous ? Sur votre 31, vous dînez avec d'importants clients et vous apprêtez à conclure un contrat qui vaut des millions. Le serveur vous renverse un plat brûlant sur la tête. Que ressentez-vous ? Vous avez fait des achats et, de retour au parking, vous constatez que roues et portières de votre voiture ont été enlevées, en plein jour. Que ressentez-vous ? Dans un élan de cœur, vous ouvrez votre porte-monnaie pour donner votre menu-monnaie à un mendiant estropié et geignant. Mais voici que l'homme se redresse, vous arrache violemment l'objet et part en courant comme une flèche. Que ressentez-vous ? Dans tous ces exemples, vous aviez une envie forte et consciente d'entreprendre une action. Votre esprit était tout à son projet. Vous désiriez sereinement réaliser quelque chose dans un but précis. Votre intention était liée à votre objectif, donc en équilibre. Mais notez que votre tension grandissait au fur et à mesure que le but approchait. Plus la tension est grande, plus grande est l'explosion. En fait, vous étiez dans le même état que l'intention, conscience, connaissance universelle, l'intelligence père et le but mère en équilibre pour donner forme et vie au projet que vous aviez l'intention de réaliser. Après votre explosion, imaginez le chaos mental et émotionnel dans lequel vous êtes plongé, incapable de penser clairement, assailli de pensées exigeant de s'exprimer, toutes plus incohérentes et illogiques les unes que les autres. Prenez conscience que vous, en tant que forme individualisée, êtes un microcosme du macrocosme, une tête d'épingle exprimant la conscience connaissance universelle. Vous êtes en équilibre quand vous méditez, l'esprit vide de pensée. Votre conscience est active quand vous pensez et ressentez, projetez et créez. Comparez maintenant votre minuscule explosion de conscience à celle des cieux. Vous aurez une petite idée du chaos qui s'ensuivit. Il fut momentané dans la dimension universelle, mais représenta des éons de temps au sein de l'étendue tout juste créée dans la dimension matérielle, encore informe. Vous serez nombreux à devoir totalement rectifier vos idées sur le thème de la création. Elle a commencé dans des conditions de chaos total. Les impulsions universelles se scindèrent. Aucun plan ne dirigeait ou guidait les débuts de l'individualité. Les impulsions étaient sans forme consciente, ni direction. C'étaient des impulsions naturelles, qui accomplissaient certaines fonctions impulsives et distinctes en conscience. Aucune force directrice intelligente supérieure ne les dirigeait vers un mouvement ou un attachement particulier. Elles existaient seules, en tant qu'impulsions de conscience, connaissances séparées, isolées, aptes à recevoir des impressions. Mais il n'y avait pas encore d'impressions à recevoir, sinon celles d'activité-mouvement de l'électricité et d'attachement-répulsion du magnétisme au sein du chaos intérieur. Ce chaos de la conscience se manifesta dans la création comme un chaos de particules. Dans cette expansion du chaos de particules électriques, cependant, existait la conscience dominante du « je ». Dans ce chaos, le « je » s'imposa, avec l'intention père de bouger, diriger, créer. Il prit sa forme initiale dans une charge positive d'énergie électrique, qui devint la force jeu dominante, sous forme de proton avec son satellite de charge électrique négative. Puis, le but mère d'attraction fut activé, sous forme de charge électrique positive, rencontrant une charge électrique négative. Ils se plurent, comme vous diriez d'un mâle et d'une femelle appartenant à une espèce vivante évoluée, et s'unirent. Le but mère de répulsion fut aussi activé lorsqu'il sembla que deux charges électriques positives ou deux charges électriques négatives allaient se rencontrer et réagir négativement. Elle intervint et les sépara, exactement comme sa corollaire, une mère évoluée, séparerait deux brutes turbulentes et agitées sur le point de se bagarrer. Ce fut là la seule forme de conscience-connaissance dans le chaos pendant très longtemps, le temps n'ayant aucune importance dans le règne de la matière. La notion de temps ne revêt d'importance qu'à partir du moment où la conscience intervient entre les charges électriques. Dès lors, se produit une action d'attraction ou de répulsion, accompagnée d'événements et objectifs à atteindre. Autrement, le temps est dénué de sens. La création est le produit des impulsions primaires, qui travaillent séparément et ensemble. Elles s'affectent mutuellement et satisfont des besoins intrinsèques imprimés dans la conscience. À la source, ces besoins sont d'exprimer de plus en plus l'expression de soi. Cette dernière provoque une séparation, puis appelle à la réunion dans l'harmonie de la conscience universelle pour retrouver sécurité intérieure et bien-être. De cette force instinctive visant à l'harmonie réunifiée de l'être, provient l'instinct mâle-femelle de réunion qui cherche à retrouver la béatitude enfouie dans la conscience de l'âme. On pourrait établir une analogie entre le paragraphe qui précède et l'habitude qu'ont les pères de sortir le matin pour aller travailler et rentrer le soir, si tout va bien, retrouver le confort et l'union familiale. Ils y puisent la force de s'aventurer à nouveau à l'extérieur le lendemain matin pour les besoins de leur lutte quotidienne. Ainsi, le processus de la création de l'expression de soi universelle s'est accompli sur des milliards d'années. Après le Big Bang, le processus créateur père-mère se scinda en deux énergies différentes, travaillant en permanence ensemble et séparément, indépendantes et cependant mutuellement contraintes à travailler ensemble. Leurs caractéristiques et nature étaient individuelles et leurs fonctions différentes. C'est pourquoi leur charge de travail était, est, différente quoique indissociable. Je vous ai précédemment parlé de la nature du père et de la nature de la mère dans l'équilibre de la dimension universelle. En méditant tout cela, vous devriez bien le comprendre. Rappelez-vous, la nature du père est de se montrer actif, créatif et d'accomplir le travail de créativité. Elle est aussi le jeu de l'existence individualisée. Toute créature vivante, du frelon à l'hippopotame, a un sens très développé du jeu et le besoin de le protéger. La nature de la mère est de donner sa forme au plan de la conscience électrique initié par l'intelligence père. Elle relie entre elles les particules électriques. Les consciences père et mère, ou impulsion primaire, demeurent en équilibre et font partie de la nature de la dimension universelle. Au fur et à mesure qu'elles créent la forme individuelle, elles accomplissent le travail correspondant à la nature de la dimension universelle. Croissance, nourriture, nutrition, guérison, protection, satisfaction des besoins. Le tout dans un système cohérent de lois et d'ordre. Survie. Les énergies de conscience père et mère sont des impulsions maintenues en contrainte dans la dimension universelle. Une fois libérées de l'équilibre, elles accomplissent puissamment le travail de création. Considérez l'importance de cette tâche dans le monde entier. Les impulsions père-mère inspirent tout niveau de création, depuis la forme des éléments, molécules ou cellules vivantes, jusqu'au superbe mammouth. Elles sont également actives dans les parents, qu'elles poussent instinctivement à s'unir, concevoir, porter et élever leurs petits. Les rares pères qui s'en vont après la naissance de leur progéniture, qu'il s'agisse d'eux, de petits animaux ou d'humains, sont les pères dont le sens du moi est plus grand que leur instinct paternel inné. Prenez maintenant pleinement conscience de ce que signifie l'impulsion. Peut-être pensez-vous que c'est une forme de créativité bien nébuleuse, mais réfléchissez. Aucun humain, animal, insecte ou même plante n'entreprend une activité dans la dimension matérielle sans une contrainte intérieure de la conscience. C'est cela, une impulsion. Tourner par exemple son visage vers le soleil, courir, manger, travailler, dormir, faire des courses, avoir un bébé. Toujours l'impulsion précède l'activité, même le simple fait de battre des paupières. En outre, aucune impulsion ne pousse à une quelconque activité dénuée d'intention. Les plantes tournent leurs fleurs et leurs feuilles pour capter les rayons du soleil et croître. Les gens courent pour être en forme, mangent pour satisfaire leur faim, travaillent pour gagner un salaire, dorment pour échapper aux tensions et recharger leurs énergies, font des courses pour acheter de la nourriture. Tout est orienté vers la survie et le bien-être personnel. Par conséquent, les impulsions sont la réalité derrière et en toute création. Si toute matière devait retourner à sa forme originelle de particules électriques, les impulsions universelles resteraient intactes et donneraient forme à une autre création. Les impulsions existent, de toute éternité, mais les particules électriques dans la matière vivante sont là aujourd'hui et auront disparu demain. L'âme, elle, poursuit son chemin. Vous pensez grâce à des impulsions électriques dans le cerveau. Vous ressentez grâce à des impulsions magnétiques dans le système nerveux. Ces impulsions centrent et relient les flux électriques en un tout cohésif. Sans cette attraction magnétique, vous ne seriez que mouvement sans connaissance. Il est temps maintenant de revenir à mon expérience dans le désert, décrite lettre 1. Rappelez-vous. Je me rendis au fleuve du Jourdain pour être baptisé par Jean. J'étais alors rebelle. Je m'opposais à l'enseignement des Juifs qui affirmaient que Jéhovah punissait les hommes pour leurs péchés. Intuitivement, je sentais que ce concept était faux et cruel. Je le rejetais. Après que la vérité sur la création m'ait été montrée, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi la conscience parfaite n'avait pas créé des êtres parfaits, à l'image de l'amour intelligent, le Créateur. Je demandais au Créateur ou conscience universelle pourquoi l'humanité endurait tant de maux et de souffrances. Il me fut alors montré très clairement que les problèmes des gens venaient tous du point central du moi, que la science appelle aujourd'hui « ego ». Il se manifestait dans la personnalité comme un besoin impérieux de défendre le moi contre la critique ou l'attaque physique émotionnelle, un besoin impérieux similaire d'écarter les autres pour arriver premier dans la course de la vie, un besoin impérieux de prendre le meilleur pour soi malgré l'opposition d'autrui, un besoin impérieux similaire de s'accrocher à ce qui est à soi, parents, amis, biens matériels ou réussite personnelle, en dépit de toute opposition. Il me fut aussi donné de comprendre que sans ces deux impulsions de l'être créateur fondamental, éternel, immuable, il n'y aurait aucune création. Voilà le secret de la création, le secret de l'existence de l'être individuel. En travaillant dans le monde visible ensemble et séparément, ces impulsions jumelles servent la création de la substance de la matière elle-même, issue de la sublime conscience universelle. Le « je » de l'activité est une impulsion de la créativité, qui est universelle et provient d'une source unique. L'activité est un mouvement de la conscience et de la conscience en mouvement. L'autre impulsion créatrice possède, métaphoriquement parlant, deux visages regardant dans des directions opposées. Ce sont l'attachement et le rejet. Tirer vers moi, repoussé. Ou attraction et répulsion, attiré vers moi, rejeté. À l'intérieur de la conscience, ce sont là les seuls moyens de créer la vie terrestre. L'univers entier manifeste une puissance créatrice active. Les impulsions jumelles de l'existence physique créent la matière et la forme individuelle. C'est l'un des secrets fondamentaux de l'univers. J'ai vu que le noyau de la personnalité, ou ego, avait été créé pour être gardien de la personnalité, qu'il portait l'empreinte profonde de l'impulsion magnétique pour assurer intimité et survie. Pour protéger le moi individuel, il fut fait usage des deux phases de la seconde impulsion de l'être, l'attachement et le rejet, afin d'assurer l'individualité. La phase attachement traîne, puise, attire, exige, tire, achète, s'agrippe, saisit, s'accroche aux gens et aux biens auxquels elle est maladivement attachée. Cette impulsion crée une illusion de sécurité, due à l'appartenance à un groupe et à la possession de biens. C'est l'instrument de la conscience mère qui pousse à construire des familles, communautés, nations. Il peut faire naître la beauté, la joie, l'harmonie, l'amour. Il peut aussi ruiner des vies et détruire des communautés s'il est dirigé par l'ego. La face rejet, repousse, écarte, rejette, fuit tout ce dont elle ne veut pas, personne, animaux, possession. Ainsi, l'impulsion de rejet crée une illusion d'intimité et de sécurité. C'est cette impulsion qui pousse à la discorde dans les familles, relations, communautés, nations. Elle sauve des vies, assure protection et intimité, mais devient une force destructrice si elle est dirigée par l'ego. Sans ces impulsions jumelles de l'être, toute chose serait restée pour toujours fusionnée dans la puissance créatrice universelle, éternelle, en équilibre. Sans ces impulsions jumelles, il n'y aurait pas d'interaction entre donner et prendre, ou tirer et pousser. Or, cela est nécessaire à la création des millions d'expériences personnelles qui contribuent à faire grandir et évoluer la personnalité. Ainsi, toutes les créatures vivantes et l'humanité entière subissent les difficultés liées à la personnalité et aux pulsions de l'ego. C'est depuis toujours un phénomène inévitable de la création. Toute autre explication n'est que fable mensongère. J'ai vu que ce que les hommes appellent péché est le résultat direct de l'interaction des impulsions d'attachement-rejet dans la nature humaine. Les impulsions d'attachement-rejet forment le masque mental et émotionnel porté par toutes les entités individuelles créées, y compris les oiseaux et les animaux. Vous voyez ces impulsions au travail dans la nature, dans la vie des plantes aussi. Les impulsions d'attachement-rejet dirigent depuis toujours le comportement de toutes les entités dans la création, s'agissant de leur survie. Il est impossible d'échapper aux impulsions d'attachement-rejet. Ces impulsions jumelles sont la source éphémère de tout plaisir au monde, bien-être ou bonheur, mais aussi la source de toute maladie, misère ou privation. La vie s'ajoute aux deux impulsions. Elle est transcendante, sous-jacente et interpénètre tout. Elle est née de l'explosion de la conscience universelle, base et source même de la conscience terrestre. De même que la conscience père-mère est créatrice, la pensée de l'homme est créatrice, car la pensée et le sentiment humain sont deux instruments jumeaux actifs et inséparables de la conscience père-mère. Aussi, les impulsions d'attachement-rejet dans la personnalité individuelle sont-elles hautement créatrices. Elles déterminent et matérialisent les formes de conscience des choses désirées et des choses rejetées. Voilà le deuxième secret fondamental de l'univers. J'ai vu que le péché était un concept artificiel, opportunément inventé par les hommes pour parler de toute activité humaine faisant souffrir autrui. Il était au reste inévitable que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, provoquent chez d'autres individus de la détresse ou de la souffrance, sous quelque forme que ce soit. C'est leur tendance naturelle à prendre aux autres, puis à les repousser sans ménagement pour satisfaire leurs désirs dans la vie. Cette tendance humaine à blesser autrui n'est en aucun cas une offense à la conscience universelle, Dieu, contrairement à ce qu'affirment les religions juives et chrétiennes. Seule l'humanité comprend la signification du mot « péché », puisque l'humanité seule et toute création soumise à l'humanité auront jamais connu la douleur, la privation et la misère provoquées par les deux impulsions fondamentales de l'individualité, attachement-rejet, à l'œuvre dans la personnalité humaine. L'impulsion innée qui pousse l'homme à protéger son individualité l'a conduite à instaurer des règles et des lois dans la société humaine. La puissance créatrice universelle, l'amour, n'a absolument rien à voir avec l'établissement de restrictions, limitations, lois et jugements humains. J'ai aussi vu que la puissance créatrice père-mère, la vie, s'écoulait continuellement à travers tout l'univers. Dans mon intellect, la vie se servait des impulsions jumelles de pensée et de sentiment. Ainsi, toute pensée ou sentiment imparfait, de force suffisante, pouvait déranger et modifier le modèle de conscience des choses créées. À l'inverse, ma pensée entièrement purifiée des impulsions jumelles de l'ego, ma pensée entièrement réceptive à l'intelligence amour de la puissance créatrice père-mère, réintroduirait l'état d'amour intelligent parfait. Donc, un état imparfait issu d'une pensée imparfaite pouvait être rendu à un état d'intégrité en changeant les attitudes et pensées de l'ego en attitudes et pensées d'amour inconditionnel. Mon esprit était un instrument du processus créateur tout entier issu de l'universel. Maintenant que je savais tout cela spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, je pouvais et devais agir pour surmonter les impulsions jumelles de l'ego qui me dirigeaient encore, afin que la réalité divine puisse pénétrer librement mon esprit et mon cerveau. Mon ego humain combattit ma conscience père-mère avec acharnement, lors des tentations très vives que j'éprouvais à la fin de mon illumination dans le désert. Satan n'a rien à voir avec l'affrontement dont ma conscience fut le terrain. La bataille était engagée entre les impulsions jumelles de l'individualité, attachement-rejet, et la réalité divine qui s'était fait connaître à moi comme vie d'amour intelligent, me transcendant et cependant en moi. Elle s'emparerait progressivement de mon individualité si je méditais régulièrement et purifiais ma conscience de mes impulsions égoïstes. Voilà la connaissance puissante que je ramenais à Nazareth. Aussi, le temps de convalescence que je passais auprès de ma mère qui m'aidait à guérir fut également un temps de prière et de méditation. J'y puisais l'inspiration et la force de vivre en toute conscience la nature de la réalité divine ou universelle. Je vous ai dit que la nature de la réalité divine ou universelle est la vie. Quand elle est active dans la création, ou les individualités de la création, elle croît, nourrit, régénère, guérit, protège, sert la survie de chacun et comble ses besoins dans un système d'harmonie parfaite, de coopération, de loi et d'ordre. C'est la nature de la vie. Son travail dans la création s'accomplit conformément à la nature universelle qui veut pour chaque être vivant le bien suprême. Comprenez le sens de ces mots et vous comprendrez pourquoi je revins du désert transformé. Une joie profonde m'animait. J'avais une conscience renouvelée de la beauté du monde, un sentiment de confiance absolue et je savais qu'il était possible de maîtriser l'apparence de la matière. Imaginez comme j'exultais à l'idée d'offrir aux Juifs la glorieuse nouvelle que le royaume des cieux était en eux. Ils pourraient le découvrir avec mon aide et changer leur vie à jamais. Je vous quitte. Cette même connaissance, pleinement comprise et méditée, peut changer le cours de votre vie. Lisez, vous élèverez votre conscience. Cherchez l'inspiration, elle vous viendra. Je souhaite tellement que vous compreniez cette lettre, aspiriez au changement, croissiez en conscience et réalisiez vos objectifs. Soyez en paix dans ma lumière. Au cours de votre lecture, tandis que vous réfléchissez, méditez et priez. Ma conscience christique vous attire et se manifestera de plus en plus à vous au fil de votre évolution dans la connaissance divine. Que vous enveloppe maintenant mon amour et ma foi en votre sagesse grandissante.